Si je vous pose la question, quel est le thème, le sujet qui a inspiré le plus d'histoires, de livres, de chansons, de films, vous dites l'amour. Et vous avez bien raison. Merci à Disney pour tous les multiples dessins animés qui nous parlent de princesses charmantes, de princes charmants. Il y a une chanson célèbre qui a été écrite en 1979 par un dénommé Francis Cabrel, dont les paroles m'ont interpellé. Le titre de cette chanson, c'est bien connu, c'est « Je l'aime à mourir ». Et écoutez cet extrait de paroles. « Moi, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ses nuits. Je l'aime à mourir. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la vision du monde qu'il y a derrière ces paroles. Francis dit: « Je ne suis rien, je ne suis rien, si je n'ai pas trouvé l'amour ou mon âme sœur. » Et cela rejoint ce que la société nous dit encore aujourd'hui. Si tu ne vis pas en couple, tu passes à côté de l'essentiel de ta vie et tu ne seras jamais comblé. Autrement dit, trouver l'amour, c'est ce qui va donner un sens à ta vie. Trouver un ou une partenaire, c'est ce qui va donner un sens à ta vie. Alors on se lance dans une quête effrénée de celui ou de celle qui va satisfaire et combler notre cœur. Si on admet cette définition qu'une idole est tout ce qui prend plus d'importance que Dieu dans nos vies, alors oui, cette quête d'amour, cette quête, cette course après le mariage peuvent devenir des idoles dans nos vies. Un pasteur a dit ceci: notre culture contemporaine nous encourage plus que jamais à remplacer Dieu par les relations amoureuses, jusqu'à la fascination, et à en tirer tous nos espoirs de bonheur. Je propose ce matin qu'on ouvre une troisième fenêtre dans la vie de Jacob. On en a déjà ouvertes deux dans les semaines passées. Et cette nouvelle fenêtre nous amène donc dans le livre de la Genèse au chapitre 29, et on va lire les versets 15 à 35. Et on va commencer par les versets 15 à 30. Puis Laban lui dit, donc à Jacob: travailleras-tu pour rien chez moi parce que tu es mon neveu? Dis-moi ce que tu voudrais comme salaire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait le regard tendre, mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté. Jacob s'était épris de Rachel et il dit à Laban: je te servirai pendant 7 ans si tu me donnes Rachel, ta fille cadette, en mariage. Et Laban répondit: je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste chez moi. Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel, et ces années furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Puis il dit à Laban: donne-moi maintenant ma femme, car j'ai accompli mon temps de service, et je voudrais l'épouser. Alors Laban fit un festin auquel il invita tous les habitants de la localité. La nuit venue, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob, qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa à sa fille Léa. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Alors il dit à Laban: que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Pourquoi alors m'as-tu trompé? Laban répondit: chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée. Mais termine la semaine de noces avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie de 7 autres années de travail chez moi. » Jacob accepta. Il termina cette semaine-là avec Léa, et Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse. Il donna aussi à Rachel sa servante, Bila. Jacob s'unit également à Rachel, qui l'aimait plus que Léa. Et il travailla encore 7 autres années chez Laban. Ce que j'aimerais vous partager ce matin va se dérouler en 3 points. On va regarder d'abord l'histoire d'un homme rempli d'amour qui n'obtient pas satisfaction. On va regarder ensuite une femme vide d'amour qui n'obtient pas satisfaction. Et puis dans un dernier point, on va regarder à l'amour qui donne satisfaction. Alors rappelez-vous, Jacob est en fuite pour échapper à son frère à qui il a fait un coup tordu. Non seulement, en plus de lui avoir volé son droit d'aînesse, échangé son droit d'aînesse contre un plat de lentilles, il a imaginé par la suite un coup tordu où il s'est déguisé pour ressembler à son frère. Il a profité du fait que son père était malvoyant pour ensuite lui préparer un plat de lentilles et recevoir la bénédiction de son père. Et forcément, quand son frère s'est rendu compte de ça, il était furieux et il voulait tuer Jacob. Donc Jacob est en fuite, et puis on a vu comment Dieu s'est déjà révélé une fois à lui au travers de cette vision de l'échelle. Et puis il s'est réveillé et il a repris sa route. Et il est arrivé enfin chez son oncle Laban. Et il a eu cette première rencontre avec Rachel au bord du puits. Et puis il a été présenté à Laban. Et il a travaillé déjà pendant 1 mois pour son oncle. Et son oncle a vu l'efficacité de Jacob dans son job. Et il veut l'embaucher. Et du coup, il lui dit, « En fait, je ne veux pas que tu travailles pour moi pour rien. Dis-moi quel serait le salaire qui te conviendrait. » Et là, Jacob répond sans hésiter, « Rachel !» La manière dont Rachel est décrite dans le texte, c'est une manière pour dire que Rachel, elle était trop belle. Elle était bien faite. Vous savez, dans les films, c'est le moment où le gars, il croise le regard de la fille et que là, la caméra, elle se met sur la fille et qu'il y a un ralenti et la fille, elle envoie ses cheveux à l'arrière et tout ça. Et c'est ça qui se passe pour Jacob. Jacob, il voit Rachel, cette fille trop belle, et à côté, il y a Léa, et le texte nous dit, Léa avait les yeux délicats. Alors, tous les commentateurs ne sont pas tous d'accord, n'arrivent pas trop à saisir, mais il semble qu'il y ait un consensus pour dire que cette comparaison est tellement proche entre Rachel et sa sœur, c'est pour dire que quelque part, Rachel était trop belle, et Léa avait très certainement un défaut, ou en tout cas, elle était moins belle que sa sœur, moins attirante physiquement. Alors à ce stade de sa vie, Jacob n'a certainement pas encore goûté réellement à qui est Dieu et à combien Dieu est un Dieu d'amour. Mais en tout cas, là, à cet instant, quand il regarde Rachel, il devait certainement se dire dans sa tête, et le texte ne le dit pas, mais on peut l'imaginer, si cette personne devient ma femme, alors ça va changer ma vie. Rachel est quelque part devenue à ce moment-là comme une idole dans la vie de Jacob. Alors on a parlé de l'idole comme quelque chose ou de quelqu'un qui est plus important que Dieu dans notre vie. Alors comment est-ce qu'on peut démasquer les idoles de nos vies ? Un premier indice nous est donné dans ce texte, c'est de regarder comment est-ce que je dépense mon argent. Je dépense facilement mon argent pour ce qui a pris possession de mon cœur. Jacob propose de lui-même, de travailler 7 ans sans toucher de salaire. Il dit, Ce sera Rachel, mon salaire, au bout de ces 7 années. Et 7 ans, vous ne vous en rendez peut-être pas compte comme ça, mais c'est un prix qui était énorme à l'époque pour épouser une fille. À l'époque, ce prix, c'était plutôt, écoutez-moi bien, c'était plutôt 50 jours de travail, presque 2 mois. Jacob propose 7 ans de travail pour épouser Rachel. Et là, je pense qu'il y a un tuyau, je ne sais pas si vous êtes papa et que vous avez des filles, mais là, il y a quelque chose à exploiter. Le jour où il y a un prétendant qui se pointe pour épouser votre fille, pas de souci, on va vraiment voir si tu l'aimes. Tu vas travailler 7 ans pour moi. Jésus dira plus tard, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Vers quoi va l'essentiel de notre argent ? Dans quel domaine de nos vies est-ce que c'est facile pour nous de dépenser ? Est-ce que c'est dans les vêtements, toujours prêt à acheter les dernières collections qui sortent ? Est-ce que c'est dans le fait de faire plaisir à mes enfants ? Est-ce que je dépense très facilement pour mon plaisir personnel, peut-être pour mes loisirs ? Acheter les derniers jeux vidéo, acheter le dernier matériel informatique, matériel de sport, de la musique. Est-ce que je dépense essentiellement dans ma maison, dans les voitures, dans les jeux de hasard, dans les smartphones, pour le soin de mon corps ? Et on pourrait compléter la liste. Il y a un autre indice pour démasquer les idoles de nos cœurs, dans les idoles de nos vies, c'est à quoi est-ce que je consacre l'essentiel de mon temps libre peut-être, et de mon énergie. Est-ce que c'est essentiellement dans mon boulot? Est-ce que c'est essentiellement dans mes loisirs? Mon jardin? Mon potager? Internet? Les réseaux sociaux? Netflix? Mon confort? Jacob a passé 7 ans pour obtenir Rachel. Et au final, ce qui est terrible, c'est que Rachel ne va pas coûter 7 ans de salaire à Jacob, mais 14 ans. Et ça c'est une autre caractéristique des idoles de nos vies. Non seulement elles accaparent notre temps, elles accaparent notre argent, mais un jour, elles nous déçoivent. Comme c'était la coutume à l'époque, Laban va organiser donc un banquet et les mariages ne duraient pas une journée, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais comme c'est encore la tradition dans certains pays, les mariages duraient 7 jours. Une semaine. Et ce soir-là, Laban profite certainement du fait que Jacob devait avoir fêté cela, peut-être qu'il était un peu ivre, le texte ne le dit pas, mais on peut imaginer. Il profite de l'obscurité, parce qu'à la fin de la nuit, quand la soirée était terminée, la famille prenait la mariée et l'amenait vers son conjoint pour qu'il puisse consommer le mariage. Donc profiter peut-être de l'obscurité ambiante et peut-être du voile que Léa devait avoir devant son visage. Toujours est-il que le texte nous dit que quand le lendemain Jacob s'est réveillé, il se rendit compte que c'était Léa. Il y a un dicton qui nous dit « L'amour rend aveugle ». Et je crois que dans cette situation, ce n'est pas peu dire. Laban, l'oncle de Jacob, a vu à quel point Jacob était malade d'amour pour Rachel. Et il a mis en place un stratagème. Et pour que Jacob, lui, le trompeur, celui qui avait aussi mis en place des stratagèmes pour piquer la bénédiction de son frère, puisse se faire avoir à ce point-là, c'est dire combien il était aveuglé par cet amour pour sa femme. Lui qui avait profité de la mauvaise vue de son père, qui s'était déguisé pour piquer les avantages du fils aîné, le voilà trompé par Laban, qui profite de l'obscurité de la nuit et certainement du voile de sa fille pour lui donner sa fille aînée. Ce soir-là, Jacob pensait coucher avec Rachel. Et voici que le matin, c'était Léa. On peut sentir dans ces quelques mots toute la déception, toute la frustration de Jacob à son réveil. Et c'est encore valable pour nous aujourd'hui. Quelle que soit la personne, quelle que soit la chose sur laquelle on fonde nos plus grands espoirs, nos plus grandes attentes, la réalité, c'est qu'au matin, ce sera toujours Léa et jamais Rachel. On aspire tous, au fond de nous, quelque chose que ce monde ne peut pas nous donner. Quelles que soient nos idoles, elles sont incapables de combler et de nous satisfaire pleinement. Alors on peut entendre, et on l'entend, la souffrance que peut engendrer la solitude. Mais placer tous mes espoirs dans le fait que ma future épouse ou mon futur mari comble mon cœur, c'est placer sur lui, c'est placer sur elle des attentes que il ou elle ne pourra jamais satisfaire pleinement. Et on peut porter ça sur chaque chose. Si je fonde mon espoir de me construire une identité dans le fait, par exemple, de construire ma maison ou alors de progresser, de monter les échelons dans mon travail, un jour ou l'autre, ce sera Léa et pas Rachel au matin. Si dans une amitié, je fonde tous mes espoirs que les autres, mes amis, viennent remplir mon cœur, satisfaire mes attentes, un jour ou l'autre, je vais me réveiller un matin et ce sera Léa et pas Rachel. Je poursuis la lecture. Genèse chapitre 29, versets 31 à 35, où on va voir une femme vide d'amour qui n'obtient pas satisfaction. L'Éternel vit que Léa était mal aimée et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. Ainsi, Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben. Voyez un fils, c'est le sens de son nom. Car, elle dit, l'Éternel a vu ma misère, à présent mon mari m'aimera. Puis elle fut de nouveau enceinte et eut encore un fils. Elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a encore accordé celui-ci. » Et elle le nomma Siméon, c'est-à-dire « il entend ». Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné trois fils. » C'est pourquoi on l'appela Lévi, qui veut dire « il s'attache ». De nouveau, elle devint enceinte et eut un fils. Elle s'écria, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle le nomma Judas, c'est-à-dire « il loue ». Puis elle cessa d'avoir des enfants. Léa est certainement la plus grande victime de cette histoire. Elle est victime de son père qui a trouvé un moyen un peu tordu quand même de la caser. Elle se retrouve finalement mariée à un mari qui ne l'aime pas vraiment. Et le comble de ça, elle se retrouve à partager ce mari avec sa sœur. Et elle sait qu'elle est la préférée. En fait, personne ne désire vraiment Léa. Léa est une femme et on peut le comprendre, avec un cœur vide d'amour, qu'elle veut essayer de combler à tout prix, en obtenant l'amour de Jacob. Et il y a quelque chose de légitime derrière. Et pour gagner cet amour, Léa, eh ben, elle va miser sur la naissance de ses garçons. Et c'était quelque chose de très important dans la tradition familiale de l'époque. C'était bon d'avoir des fils. Mais rien ne change. Ce n'est pas l'arrivée de ses fils qui vont lui faire obtenir cet amour qu'elle désire tant. Là encore, on peut sentir toute la déception, toute l'insatisfaction. Quelqu'un a dit, la même personne que tout à l'heure, on dit souvent que l'homme se sert de l'amour pour obtenir un rapport sexuel et que les femmes se servent de la sexualité pour obtenir l'amour. C'est un stéréotype, mais comme tous les stéréotypes, il contient une part de vérité. Et c'est un peu vrai chez Jacob, et c'est un peu vrai chez Léa. Au final, la situation de l'un comme de l'autre révèle qu'aucun être humain ne peut pleinement satisfaire le désir de nos cœurs, celui d'aimer et celui d'être aimé. Au contraire, il me semble qu'on devient même esclave de nos propres désirs. Certains, et je mettrai entre parenthèses souvent les hommes, ne s'engagent plus et cumulent les aventures amoureuses. Ils désirent quelque part rester libres et indépendants. D'autres, et j'ai mis entre parenthèses souvent les femmes, sont prêtes à tout pour gagner le cœur de leur conjoint, à un tel point qu'elles deviennent parfois vulnérables et manipulables. Et ces deux situations sont dramatiques et font des dégâts dans les vies. Si l'amour qui donne satisfaction se trouve dans le mariage, alors comment expliquer ces statistiques que j'ai trouvées en ligne? En France, en 2016, 46% des mariages se terminent par un divorce. C'est à peu près un mariage sur deux. Une autre statistique, en 2021, au sein d'un couple marié, 38% des femmes et 58% des hommes ont déjà trompé une fois leur conjoint. Et puis j'ai parlé en intro de toutes les chansons, les histoires et les films qui ont été écrites, inspirées par ce thème de l'amour. Mais je crois qu'on ne compte pas le même nombre, au moins, de ces histoires, de ces chansons, de ces films qui parlent de déception sentimentale et de frustration amoureuse. Un autre homme a dit ceci, « Et si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne puisse satisfaire, l'explication la plus plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde, éternel et surnaturel ?» Je le relis. « Et si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne puisse satisfaire, l'explication la plus plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde éternel et surnaturel ?» L'histoire de ce matin a commencé un mois auparavant auprès d'un puits, le fameux puits de Jacob. C'est là où Jacob a rencontré pour la première fois Rachel. Et des siècles plus tard, c'est aussi à ce lieu-là qu'il va y avoir une toute autre rencontre. La fameuse rencontre de Jésus avec la femme samaritaine qu'on peut trouver dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Jésus rencontre cette femme au bord de ce puits et il lui propose de boire une eau vive avec laquelle elle n'aura plus jamais soif. Mais cette femme samaritaine ne saisit pas bien les propos de Jésus. Alors Jésus lui demande d'aller chercher son mari. Et elle lui dit « Mais je ne suis pas mariée ». Ce à quoi Jésus lui répond « Tu as raison. En effet, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. » Jésus est, au travers de cela, en train de mettre le doigt sur le vide qu'il y a au plus profond du cœur de cette femme samaritaine. Elle avait soif d'amour et elle cherchait à combler cette soif en multipliant les rencontres au travers du mariage. Et Jésus lui transmet en quelque sorte le message suivant. Cette soif d'amour que tu as au plus profond de toi, aucun mari, aucun homme ne pourra la combler. Mais moi, je le peux. Il n'y a que moi qui puisse remplir ton cœur d'un amour satisfaisant. En revenant à notre histoire de ce matin, au final, Léa semble la seule à progresser spirituellement. Et on le constate au travers des naissances. Elle donne des prénoms. Elle donne des prénoms qui sont en lien avec ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent. Et regardez l'évolution. Ruben, l'Éternel a vu ma misère. À présent, mon mari m'aimera. Deuxième enfant, Siméon. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Lévi, mon mari s'attachera à moi. Mais pour son dernier fils, Judas, elle dit, et ça change tout par rapport à tous ses anciens propos, « Je louerai l'Éternel ». Pas de mention d'elle, pas de mention de son mari. Léa a tourné son regard vers Dieu seul. Elle semble avoir rencontré en Dieu le vrai mari, en Dieu celui qui l'aime vraiment et dont l'amour offre une satisfaction réelle et durable. Il est l'époux par excellence. Dieu a vu que Léa n'était pas aimée, nous dit le texte. Et Dieu l'a aimé. Dieu aime ceux qui ne sont pas aimés. Dieu aime ceux qui sont faibles. Dieu aime ceux qui sont rejetés. Et il lui montre son amour en faisant quelque chose pour elle de particulier. Il lui permet d'avoir des enfants. Et c'est de la descendance de Judas, ce quatrième enfant, que naîtra un jour Jésus. Dieu a fait de Léa, cette femme qui n'était pas aimée de Jacob, la mère ancestrale de Jésus. Jésus, Dieu qui s'est fait homme sur cette terre. Jésus, celui qui n'était pas non plus aimé. Jésus, celui qui n'a pas été reconnu des siens, qui a été rejeté, qui a été abandonné. Pourquoi ? Par amour. Pour vous et par amour pour moi. Il a pris sur lui nos péchés, c'est-à-dire notre profond désir de vivre sans Dieu, avec toutes les conséquences que ce choix implique. Voilà la grandeur et voilà la profondeur de l'amour de Dieu pour chacun de nous ici. La femme samaritaine a trouvé en Jésus Dieu fait homme. Cet amour satisfaisant. Léa a trouvé en Dieu, finalement, cet amour satisfaisant. Le même auteur dit ceci, « Jésus doit devenir plus beau à votre imagination, plus attirant à votre cœur que vos idoles. Voici ce qui remplacera vos faux dieux. Si vous arrachez l'idole sans planter l'amour du Christ à sa place, l'idole repoussera. Le problème avec nos idoles, c'est que bien souvent, ce sont des bonnes choses en soi. Et le problème n'est pas que nous aimions ces choses-là, mais bien que nous les aimions plus que Dieu. Dieu désire la première place dans nos cœurs. Il désire la première place dans nos vies. Il désire que nous l'aimions plus que toute autre chose. Il est la réponse aux désirs les plus profonds de nos cœurs. Alors à tous ceux qui ne sont pas mariés, Jésus leur dit « Je suis le véritable ami, je suis le véritable mari, le véritable amour, le seul qui puisse combler profondément votre cœur. » À ceux qui sont mariés, Jésus ne leur dit pas « Aimez moins votre conjoint ou votre conjointe, mais aimez-moi plus que votre conjoint ou que votre conjointe. » Jésus ne dit pas « Arrêtez de prendre du plaisir ou arrêtez de vous régaler dans votre boulot. » Mais il dit « Régalez-vous plus de moi que de votre travail. » Jésus ne dit pas « Arrêtez, stoppez toute activité sportive. » Mais « Aimez-moi plus que votre santé, plus que vos loisirs. » En fait, il y a un lien entre ces choses-là et le plaisir qu'elles apportent. Il y a du plaisir dans le mariage, c'est clair. Il y a du plaisir dans les loisirs, c'est certain. Il y a du plaisir dans le travail, en tout cas pour plusieurs, ce n'est pas toujours le cas. Il y a du plaisir dans le fait de construire sa maison. Il y a un certain plaisir d'entretenir son jardin ou son potager et de voir les fruits et les légumes pousser chaque année. Il y a du plaisir et de la détente à jouer aux jeux vidéo, de porter de nouveaux vêtements, d'avoir en main peut-être le smartphone dernière technologie. Il y a du plaisir à regarder des séries sur Netflix. Mais toutes ces choses, tous ces plaisirs ont un côté très éphémère et passager. Et c'est pour ça qu'on y retourne sans cesse, à un point tel qu'elles peuvent nous asservir. La solution demeure dans le fait de fixer nos regards vers celui qui nous aime profondément. Et cela a été encore partagé, je crois, au travers de la lecture d'un verset dans Hébreux ce matin. Plus je me rends compte combien Dieu m'aime, plus mon amour pour lui va grandir, ce qui me libérera de mon attachement aux choses d'ici-bas. Et j'aimerais terminer ce partage par cette citation. Paul nous dit « Réjouissez-vous en tout temps. » Ce qui ne signifie pas « Sentez-vous toujours heureux » parce que nul ne saurait commander à autrui une émotion particulière. Se réjouir signifie tenir quelque chose comme un trésor, réaliser sa valeur, se laisser imprégner de sa beauté et de son importance jusqu'à ce que votre cœur y demeure et goûte à sa douceur. Se réjouir est un moyen d'adorer Dieu jusqu'à ce que le cœur soit apaisé, reposé et puisse lâcher prise sur quoi que ce soit d'autre qu'il pense être important. Je vais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es ce Dieu qui est notre Créateur. Merci parce que tu es ce Dieu qui nous aime profondément. Merci parce que tu nous as créés pour être dans cette relation bienfaisante, cette relation de vie abondante. avec toi. Mais on s'est détourné de toi, on s'est éloigné de ta présence et on a voulu devenir les maîtres de nos vies. Et Seigneur, ton absence laisse un vide dans nos cœurs et dans nos vies que toutes les choses dans ce monde ne peuvent combler. Oui, ce sont de belles choses, de bonnes choses, et tu prends tellement de plaisir à nous voir nous régaler de ces choses. Merci pour toutes ces bénédictions, pour cette nature, cette région magnifique dans laquelle on se trouve. Merci pour toutes ces amitiés que l'on peut avoir aujourd'hui avec les uns et les autres, tous ces bons moments de fête, de joie, de réjouissance qu'on peut vivre. Merci pour ce que tu nous donnes, pour certains, le privilège d'avoir des maisons, un toit, un jardin, un extérieur. Merci pour tous ces temps de divertissement que tu nous donnes. Mais Seigneur, garde-nous de placer ces choses en priorité, comme source de joie, comme source de bonheur dans nos vies. Garde-nous de nous jeter dans des relations où on pense que ce sont ces choses-là qui vont nous apporter satisfaction. Parce que c'est vrai, un matin on se réveille, et Seigneur, c'est Léa et pas Rachel. Or Seigneur, que tu nous apprennes, que tu transformes nos vies, que tu nous donnes ce désir, que tu crées au plus profond de nos cœurs, ce désir de porter, de garder nos regards fixés sur toi, qui est celui qui est le plus beau, qui est celui qui est le plus incroyable, qui est le plus merveilleux, et qui est le seul qui puisse remplacer, qui puisse apporter toute cette satisfaction dans nos vies et faire passer toute autre chose à un deuxième plan. Amen.